Alors, la question qui est posée est une question, l'union de la ville et de la campagne, question centrale, et une question centrale, pas seulement pour Gramsci, pas seulement pour l'Italie, mais c'est une question que se pose l'ensemble du mouvement communiste international. Et il se pose de façon très très forte d'emblée, puisque il y a la question du ravitaillement des villes hein, en Union soviétique, en Russie qui vient de faire la révolution. Et dans un premier temps, en 1918, cet rapport entre les villes et la campagne, bien loin de se résoudre par l'alliance des villes et de la campagne, se résout par la guerre des détachements ouvriers des villes qui vont récupérer du blé dans les campagnes. Hein. Cette expérience, considérée par Lénine lui-même comme un moment vraiment tragique pour la révolution, un moment où la révolution a failli basculer, va l'amener explicitement hein, à décider de battre en retraite, de reculer par rapport à ça, et va expliquer le fait que pour régler la question, il faut remettre en place des modalités beaucoup moins coercitives et beaucoup plus liées à la compréhension des intérêts des paysans. Et c'est la raison pour laquelle il met en place la nouvelle politique économique, hein, la NEP, en l'appelant justement en disant. On va battre en retraite, hein. On ne peut pas continuer comme ça en élargissant le fossé entre les villes et les campagnes. Il faut donc permettre que les paysans puissent vendre le blé assez librement, à un prix décent, etc., et pas les contraindre. On y a été obligé en 1918, mais on a couru le risque de la fin de la révolution hein, et de la catastrophe. On ne veut plus que les bolcheviks se retrouvent dans cette situation-là, ça explique la NEP. Hein. Notez bien que quand Gramsci va à une expérience en Russie et va à Moscou, c'est ce moment-là. Hein. Et que ce moment-là, qui est marqué par cette idée de la nouvelle politique économique, de l'alliance, et donc non-coercition, mais alliance et compréhension et confiance, etc., entre paysans et villes, entre paysans et ouvriers, et front unique, voilà, sont les éléments qui vont en gros le socialiser au communisme hein, et qui va garder jusqu'à la fin de sa vie. Hein, cette idée que front unique, alliance, pas de coercition, consensus et consentement hein, des paysans vis-à-vis des villes et des ouvriers, et c'est un point fondamental. Alors, je vous enverrai pour toute la première partie qui analyse la question des rapports ville-campagne dans le mouvement communiste international, et que là, je résume vraiment en 3 minutes, hein, je vous enverrai un texte dans lequel il y a un peu plus d'éléments bibliographiques, etc., que vous recevrez dans la journée, enfin, voilà. Hein. Alors, le deuxième point qu'il faut noter, c'est que ce moment voulu par Lénine, soutenu par des gens comme Boukharine, qui jouent un grand rôle dans la mise en place et dans le développement de la nouvelle politique économique, va prendre fin à la fin des années 20, c'est-à-dire au moment où Gramsci est en prison et où continue à écrire sur cette ligne-là. Cette ligne-là a été, et de façon brutale et tragique, abandonnée par la ligne stalinienne à l'intérieur du Parti communiste de l'Union soviétique. Et ça va être le processus de collectivisation forcée des campagnes. Et là, c'est terminé la question de l'alliance avec, c'est où tu fais ça, où. À droite, au fond, à gauche, là, voilà, première à droite, et là, il y a un endroit très sympa où on va te mettre, et tu verras comme c'est bien, ça s'appelle le goulag. Voilà, hein, voilà, d'accord. Donc, collectivisation forcée, ça veut dire 3 millions de morts en Ukraine, hein. C'est pas des petits trucs de rien, hein. C'est 3 millions de morts en Ukraine, la famine, et le célèbre concept, qui est autre chose qu'un concept, de destruction des koulaks en tant que classe, qui veut dire liquidation des koulaks. Hein, voilà. On reprend leur terre, on les met dans les koulaks, on les met au goulag, et la question est réglée. La question est réglée. Alors, donc, au moment où il va développer, lui, Gramsci, où il va développer ses thèses, où il maintient en fond des points qu'il a acquis et qu'il pensait acquis par le mouvement communiste international au moment de la nouvelle économie politique, de l'hypothèse du front unique, etc., il est en décalage complet avec la ligne générale du Parti communiste de l'Union soviétique. Donc, assez rapidement, de l'Internationale communiste, de la même façon, et ça, on l'a déjà vu, qu'il était en décalage avec la ligne de rupture avec les forces sociales-démocrates, là, c'est la ligne dite de lutte contre le social-fascisme, etc., hein, et qui a amené, entre autres résultats mirifiques, la victoire des nazis en Allemagne. Voilà. À la fin du processus, on sait que la... Mais là, il est presque mort. Il y a le nouveau virage de l'Internationale communiste qui est le virage dit des fronts populaires. Hein. Mais pendant 10 ans, ça va être cette ligne-là qui va l'emporter dans le mouvement communiste international et l'Internationale communiste. Alors, il a... Parmi les choses... Hein, qu'il a dite rapidement, juste avant son arrestation, hein, en octobre 1926, c'est les deux textes auxquels on a déjà fait allusion dans ce séminaire, qui sont le texte qui s'appelle à l'origine Note sur le problème méridional et la façon de l'envisager des partis communistes, socialistes et démocrates. Et puis l'autre texte qui est contemporain, hein, qui disait aussi politiquement sa perplexité au moins, sinon son désaccord, du moins sa perplexité vers les luttes qui se déroulaient à l'intérieur du Parti communiste d'Union soviétique, qui était donc la fameuse lettre qu'il envoie à Toliatti pour qu'elle soit transmise au comité central du Parti communiste d'Union soviétique, et que Toliatti, par précaution vis-à-vis du parti, aussi de Gramsci, mais vis-à-vis du parti, pour préserver le Parti communiste d'Italie, ne transmettra pas au comité central du Parti communiste d'Union soviétique. Mais dans cette lettre-là, il y avait déjà un point qui concernait directement la question de comment concevoir l'hégémonie du prolétariat, hégémonie du prolétariat étant à comprendre, hein, dans le sens léniniste, de l'alliance du prolétariat avec les paysans. Hein. Je vous lis ce passage-là, hein, uniquement ce passage-là, où il explique pourquoi les Italiens se préoccupent de cette question. Hein. Il leur explique que le parti italien ressent vivement les répercussions de la grave situation qui existe au sein du Parti communiste de l'URSS, justement parce que la question de l'hégémonie du prolétariat et les formes que prend l'alliance du prolétariat avec la paysannerie sont centrales, certes, pour la Russie, mais également pour l'Italie. Alors, je lis le passage. De la même façon, vous recevrez le texte, donc vous pourrez y revenir le cas échéant, mais je le lis. Tous les problèmes, donc je cite en traduction, tous les problèmes qui touchent à l'hégémonie du prolétariat se présenteront certainement chez nous, donc en Italie, sous une forme encore plus complexe et encore plus aiguë que dans la Russie elle-même, parce qu'en Italie, la densité de la population rurale est considérablement supérieure, parce que nos paysans ont une très forte tradition d'organisation et qu'ils sont toujours parvenus à peser de façon très sensible de tout leur poids spécifique de masse dans la vie politique nationale, parce que chez nous, l'appareil de l'organisation ecclésiastique a une tradition bimillénaire et qu'il s'est spécialisé dans la propagande et dans l'organisation des paysans d'une façon inégalée dans les autres pays. S'il est vrai que chez nous, l'industrie est plus développée et que le prolétariat s'appuie sur une base matérielle appréciable, il est également vrai que cette industrie n'a pas de matière première dans le pays et est par conséquent plus exposée à la crise. C'est pourquoi le prolétariat ne pourra assumer sa fonction dirigeante que s'il est très riche en esprit de sacrifice et s'il s'est complètement libéré de toute trace de corporatisme réformiste ou syndicaliste. Donc, la dernière phrase que je viens de vous lire va être reprise et développée dans les notes sur la question méridionale. Le prolétariat, donc, pour Gramsci, le prolétariat ne peut assumer sa fonction dirigeante, c'est-à-dire celle de l'unité des masses populaires, de l'unité du peuple, que s'il parvient de se débarrasser de tout résidu corporatiste, c'est-à-dire de tout égoïsme de classe, qu'il accepte même de faire des sacrifices pour que l'alliance avec les autres forces populaires, et en particulier les paysans, puissent se réaliser. Donc, je vous lis un passage de la note sul problema meridionale. Vous savez, c'est celle qui a après été publiée, alors qu'il était déjà en prison, sous le titre « Quelques thèmes de la question méridionale ». Alcuni temi della questione meridionale. Alors, je cite ce passage. Le prolétariat, pour être capable de gouverner en tant que classe, doit se dépouiller de tout résidu corporatiste, de tout préjugé et de toute scorie syndicaliste. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique qu'il ne suffit pas que soient surmontées les divergences qui existent entre les différentes professions et que, pour conquérir la confiance et le consensus des paysans et de certaines catégories semi-prolétariennes urbaines, il est indispensable de surmonter plusieurs préjugés et de vaincre certains égoïsmes qui peuvent subsister et qui en effet subsistent dans la classe ouvrière en tant que classe, même lorsque les particularismes de métier ont disparu. Confiance et consensus. En italien, fiducia e consenso. Fiducia e consenso. Voilà. Il faut gagner la fiducia e il consenso. Ce qui veut dire, vous voyez bien que d'emblée, ça veut dire on ne peut pas régler cette question de l'alliance avec les paysans et certaines catégories semi-prolétariennes urbaines, c'est une partie des employés, les gens de maison, les choses comme ça, sans vouloir gagner leur confiance et leur consensus. Et ça veut dire qu'on renonce à coercition, force, obligation. Et qu'on met en avant confiance, consenso. Alors, non seulement, je continue la citation, non seulement il faut que les métallurgistes, les menuisiers, les ouvriers du bâtiment pensent en tant que prolétaires, donc membres d'une même classe, et non pas seulement en tant que métallo, menuisier, ouvrier du bâtiment, etc. Mais encore, il faut qu'il fasse un pas de plus. Il faut qu'il pense en membre d'une classe qui tend à prendre la direction, hein, et donc pas la domination, mais bien la direction des paysans et des intellectuels. Alors, vous avez tout de suite, hein, vous voyez, c'est en 26, hein, en octobre 26, il a déjà là en place toute une série d'instruments qui va après, évidemment, développer dans la réflexion des cahiers de prison. Donc, une classe qui ne peut vaincre et ne peut construire le socialisme que si elle est aidée et suivie par la grande majorité de ces deux couches sociales, les paysans, les intellectuels. Si l'on n'obtient pas cela, le prolétariat ne deviendra pas la classe dirigeante, et ces couches sociales qui, en Italie, représentent la majorité de la population, resteront sous la coupe de la bourgeoisie et donneront à l'État la possibilité de résister à l'élan prolétarien et de le briser. Voilà. Donc, en 26, il est déjà très clair et il a en place toute une série de concepts politiques qu'après il va développer, modifier, etc., mais qui restent au fond jusqu'à la fin, et dont vous voyez qui sont liés à une conception de ce qui s'est passé en Union soviétique sous la direction de Lénine et de grands concepts léninistes comme Front unique et l'alliance, l'hégémonie du prolétariat, dont le sens est l'alliance entre le prolétariat et les paysans. Voilà. Alors, il y a un autre aspect que j'aime beaucoup, mais je vais juste vous le y faire allusion ici, mais voilà, c'est toute une série de passages, hein, en particulier déjà dans ce même texte de 26, hein, où il montre, hein, mais ça, vous l'a dit à plusieurs reprises, il montre son intérêt, comment on dit ça, empathique. Hein. J'ai parfois défini ça comme son éthique vis-à-vis du peuple, son éthique vis-à-vis des paysans. Hein. Et il y a ce passage qui est très 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 fort de l'arrivée à Turin, de la Brigata Sas, au moment des grèves, etc., des grèves de Turin en 19-20, là c'est en 20. Non, pardon, c'est en 19. Et donc il arrive ces sardes, soldats sardes. Et donc eux, ils envoient leurs trois quêtes. Ils en ont quelques-uns, des camarades sardes, ils sont 8. Il y a 8 communistes sardes à Turin qui les envoient discuter avec les mecs. Et alors, ils donnent le compte-rendu, c'est voilà, très émouvant comme passage. Hein. Donc, il envoie le mec qui est lui-même un ouvrier sarde communiste. Il parle, il dit, j'ai parlé avec un jeune paysan, donc il fait parler ce camarade qu'il va rencontrer. J'ai parlé avec un jeune paysan qui m'avait accueilli cordialement parce que je suis de Sas, allez, comme lui. Alors, le dialogue. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Turin ? Nous sommes venus pour tirer contre les messieurs, les signori, qui font grève. Mais ceux qui font grève, ce ne sont pas des messieurs, ce sont des ouvriers et ils sont pauvres. Ici, tous sont des messieurs. Ils portent tous un col et une cravate. Ils gagnent 30 lire par jour. Les pauvres, moi je les connais. Je sais comment ils sont habillés. À Sassari, oui, il y a beaucoup de pauvres. Nous tous, les zapater, hein, les bêcheteurs, ceux qui bêchent la terre, nous sommes pauvres et nous gagnons une lire et demie par jour. Mais moi aussi, je suis ouvrier et je suis pauvre. Toi, tu es pauvre parce que tu es ça. Mais si je fais grève avec les autres, est-ce que tu me tireras dessus ? Le soldat réfléchit un peu, puis me mettant la main sur l'épaule. Écoute, quand tu fais grève avec les autres, reste donc à la maison. Voilà. Comment ça se termine, ce récit ? Il fait ce récit-là, et puis il écrit, juste après, à peine quelques mois plus tard, à la veille de la grève générale des 20 et 21 juillet 1919, la brigade fut retirée de Turin. Donc qu'est-ce qu'il laisse de côté ? Il laisse de côté, évidemment, le travail politique qui a été fait, parce que quelque chose qui est assez fort, c'est on a l'impression, en le lisant, qu'il est plus important pour lui de rapporter les paroles de ce jeune paysan sarde qui savait ce qu'étaient les pauvres. Hein ? Nous, on sait ce que c'est les pauvres. On gagne. Hein ? On n'a pas de quoi manger. On a une lire et demie par jour, pas 30 lires. Et il pensait que c'était plus important, ça, de comprendre l'impression immédiate, là, je le cite dans une lettre à sa femme, hein, l'impression immédiate, directe, vivante, de la vie de Pierre, de Paul, de Jean, d'individus particuliers et réels, qu'il faut comprendre si l'on veut comprendre ce qui est universalisé et généralisé. Hein, je pense que c'est une des grandes leçons de la position éthique de Gramsci. Et que ça, c'est plus important, même s'il faut le mener, même si c'est fondamental de mener, mais c'est plus important de dire ça que de dire voilà quel type de travail politique on a mené avec eux. Hein. Mais voilà, bon, c'est une petite parenthèse, mais il me semble qu'elle a son importance sur voilà, une spécificité, je crois, de... Ça s'appelle l'amour du peuple, on pourrait dire. Hein, ouais. Alors, Machiavel et les Jacobins. Donc là, hein, vous voyez, le point de départ, c'est ça. La première notation sur le lien entre ville et campagne se trouve dans une note consacrée à Machiavel, sans doute la première, hein, c'est la première, enfin, rédigée en juin, je crois que c'est la première dans l'absolu sur Machiavel, celle que... Romain a cité tout à l'heure, Q1-10, hein, en juin 29, hein, c'est la note qui tend à réfuter l'idée de Machiavel comme le politique en général, bon pour tous les temps, et à le présenter comme lié à son temps. Et alors, vous vous souvenez, là, que donc, là, pour la première fois, mais il l'appliquait uniquement à Machiavel, hein, il rappelait l'indication, ce qu'il notait comme étant l'indication de classe contenu dans l'art de la guerre, hein, à savoir que, eh ben, il faut constituer une armée, une force armée sûre et fidèle, abandonner l'idée des milices payées par les milices mercenaires, et faire cela en s'appuyant sur les paysans comme masse. Hein, voilà. Donc, il note ça immédiatement. Et il va y avoir, à partir de là, une récurrence de cette idée du lien nécessaire de la ville et de la campagne, la nécessité d'assurer le lien entre ville et campagne. Et c'est à partir de ce moment-là, hein, à partir de ce moment-là, et en particulier à partir de février 1930, dans le cahier 1, les fameuses notes là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dû se faire un trou dans le nez ce jour-là, mais, ou ces jours-là, mais les Q1-43 et Q1-44, qui, en gros, mettent en place toute une série d'éléments qu'après on retrouve développés, analysés mieux, précisés, etc. Après, mais là, il y a cette espèce de noyau brûlant de la pensée, noyau en fusion de la pensée de Gramsci, qui est là, dans ces deux notes-là, hein, qu'il faut toujours considérer. Vous voyez, tout à l'heure, on disait « Ah, tu veux faire les intellectuels, tu commences par Q1, 43, 44. Ouais, » parce que c'est vraiment le noyau en fusion de la pensée gramscienne. Et à partir de ce moment-là, ces indications sur l'union de la ville et de la campagne portent à la fois sur Machiavel et sur les Jacobins. Hein, et elles sont, en règle générale, liées à la réflexion historique et politico-militaire que mène Gramsci sur le Risorgimento. Hein. Alors, vous savez justement que dans Q1-44, Gramsci compare les Jacobins à, disons, la gauche du processus de Risorgimento italien, le parti d'action Mazzini, Garibaldi, Pisacane, etc., tous ces gens-là. Hein. Et alors, là, il énonce la thèse qui va permettre le rapprochement, hein, avec Machiavel, les Jacobins, donc comparaison entre Jacobins et Parti d'Action. Deux points. Les Jacobins luttèrent résolument pour assurer le lien entre ville et campagne. Et le Parti d'Action, de son côté, fut incapable de mener une telle lutte. Ils ne se posent pas la question de la réforme agraire. Hein, ils l'expliquent très clairement, ils ne veulent pas la réforme agraire. Ils ne veulent pas donner la terre aux paysans. Donc, ils ne peuvent pas poser la question, hein, ils ne peuvent pas assurer le lien entre ville et campagne. Et pourtant, ils auraient pu, dit-il toujours dans le même... Ils auraient pu, hein, parce que ils auraient pu regarder dans l'histoire des communes italiennes, et ils auraient pu aller lire, et là je le cite, le maître de politique le plus classique pour les classes dirigeantes italiennes, Machiavel, qui avait lui aussi posé le problème, naturellement dans les termes et avec les préoccupations de son temps. Dans les écrits militaires de Machiavel, il est explicite, hein, est assez bien vu, la nécessité de se lier aux paysans pour avoir une milice nationale qui élimine les compagnies mercenaires. Donc là, ce lien explicite qui est mis en évidence entre les Jacobins et Machiavel sur les questions de l'union des villes et de la campagne est en place dès cette note 44 du cahier 1 en février 1930 et va rester en place jusqu'au bout. Hein, elle va rester en place jusqu'au bout. Donc, que ça soit dans le cahier de 13, hein, comme on l'a vu et qu'on va le revoir rapidement là aussi, mais aussi quand il reprendra ses notes sur le Risorgimento dans un cahier spécifique, un cahier spécial, hein, qui est le cahier 19, hein, et en particulier dans la note 19-24 qui reprend le matériau de Q1-44. Et voilà, donc on a, hein, assez rapidement, vous voyez, la mise en place. Hein. Alors, on saute toute une série de choses qui ont été dites Romain dans sa présentation des approches de Machiavel par Gramsci, et on revient à la question du prince, du moderno principe, il moderno principe, le prince nouveau, le prince moderne, dans la note, hein, donc d'abord dans le cahier 8, mais essentiellement mais aussi sous sa forme définitive dans le cahier 13, note 1, et là très clairement, hein, et là avec une formulation qui est un apex absolu dans la littérature italienne, donc pas seulement chez Gramsci, mais aussi dans toute la littérature italienne, vous pouvez chercher partout, vous ne trouverez pas cette expression, hein, les Jacobins furent certainement una incarnazione categorica del principe di Machiavelli. Furent certainement une incarnation catégorique du prince de Machiavel. Hein. Et réciproquement, du coup, on peut reconnaître chez Machiavel un jacobinisme précoce. Hein. Et l'incarnation catégorique. Alors, elle est catégorique, parce qu'elle est catégorique. Bon, c'est catégorique, c'est comme on dit, une affirmation catégorique. Hein. Mais comme on dit aussi, et c'est pas un hasard que dans cette même note 1 du cahier 13, l'expression kantienne apparaisse, comme on dit aussi, l'impératif catégorique. Tiens. Voilà, qui ne souffre pas de remise en question. Hein. Une incarnation qui ne souffre pas de remise en question. Hein, les Jacobins sont l'incarnation du prince de Machiavel. C'est-à-dire, donc, ça veut dire, hein, ils ont permis l'élaboration d'un mythe national populaire, hein, qui fait la spécificité de la France encore au moment où Machiavel écrit. Hein, voilà la force. Hein, et donc, de cet apex, il faut le concevoir comme ayant la force, hein, de l'application à incarnation du prince, l'application de l'idée de l'impératif catégorique qui ne peut être remis en question, qui ne doit pas être remis en question, et qui ne peut que se réaliser, qui ne pouvait que se réaliser. Hein. Et je vous dis, c'est... c'est la seule fois où lui l'utilise, mais je ne crois pas avoir trouvé nulle part, malgré des recherches assez poussées, l'expression comme ça, l'adjectif catégorique avec un mot comme incarnation. Alors, le point, hein, on va juste dire que, répéter là, ce que Romain a déjà mis en évidence, toute formation, donc un passage central, hein, sur qu'est-ce qu'entendait faire Machiavel, qu'est-ce qu'ont fait les Jacobins, hein, toute formation de volonté collective nationale populaire est impossible si les grandes masses des paysans travailleurs, des paysans cultivateurs ne font pas simultanément irruption dans la vie politique. C'est cela qu'entendait faire Machiavel, hein, permettre à la masse des paysans du Contado florentin de jouer un rôle politique à Florence. Hein. Ça se discute un tout petit peu d'un point de vue historique, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il le lit, et c'est ça qui nous importe pour le moment. C'est cela qu'entendait faire Machiavel avec sa réforme de la milice, c'est cela que firent les Jacobins dans la Révolution française. Dans cette compréhension, il faut identifier un jacobinisme précoce de Machiavel, le germe plus ou moins fécond de sa conception de la Révolution nationale. Donc, pour la Révolution nationale, il faut, hein, cette présence populaire que l'union de la ville et de la campagne peut permettre de réaliser. Bon, l'autre aspect du lien très fort entre les Jacobins et Machiavel porte sur l'autre point fondamental de... ce premier point porte sur la volonté collective nationale populaire. Hein. Le second point central, comme vous en souvenez, c'est celui de la réforme intellectuelle et morale. Et à propos de Machiavel, Gramsci utilise même l'expression « révolution intellectuelle et morale ». Hein, c'est à l'origine dans cahier 4, note 8, et puis c'est repris dans le cahier 13, note 20, hein, cette idée que il innove complètement dans le domaine de la morale et de la politique, hein, en montrant que il y a immanence, hein, des questions politiques. Il n'y a pas du tout de caractère transcendantal, enfin, qu'il a laissé de côté tout ce qui est le religieux, au sens, non pas au sens de la foi, hein, parce que vous vous souvenez que cet aspect-là du religieux est toujours gardé par Gramsci, mais du côté du fait que ça se passe ailleurs, qu'il y a une providence extérieure à l'action des hommes, qu'il y a une divinité qui dirige les actions ou donne leur sens aux actions humaines, etc. Voilà. Bon. Alors, la question, mais comme ici j'aborde vraiment sous l'aspect de l'union des villes et des campagnes, je ne fais que noter cet aspect-là, hein, et je reviens aux Jacobins et à Machiavel, pour ce qui est de l'union de la ville et des campagnes. Alors, comment ça lui est venu de penser que c'était central? Alors, on voit bien que ça lui vient de la question politique qui se pose en Italie et qui se posait en Russie. On voit bien que c'est de là. Mais pourquoi prendre comme... élément de référence historique, Machiavel d'un côté, hein, Machiavel, on peut le comprendre, il le lit, hein, il comprend très bien la force du dernier chapitre, hein, c'est vraiment du dernier chapitre du Prince, il comprend très bien l'importance d'avoir écrit un livre qui s'appelle l'art de la guerre, et dans lequel tout le premier livre confirme, hein, alors même qu'il y avait eu cette défaite militaire de la République, dans laquelle il jouait ce rôle, le rôle qu'on sait, et que cette défaite était en général attribuée à sa mise en place d'une ordinance florentine, c'est-à-dire d'une petite armée dans laquelle les soldats étaient les paysans et où les officiers venaient de Florence, etc. Et que dans l'art de la guerre, il va défendre, hein, il va défendre, mais à spada tratta, hein, cette idée qu'il avait raison de le faire, on a eu raison de le faire, il faudra continuer à le faire. Hein. Et donc là, on voit bien pour ça, mais pourquoi les Jacobins ? Comment ? Qu'est-ce qui fait que Gramsci devient le porteur de l'hypothèse que y a ce lien entre jacobinisme et Machiavel. Alors, la chose d'abord qu'il faut avoir en tête, hein, on va pas rentrer là non plus dans les détails de ça, et simplement c'est que, en gros, pendant toute la période d'avant, hein, toute la période de Gramsci journaliste, des différents journaux qu'on a vus jusqu'au moment de l'Ordine Nuovo, hein, jusqu'au moment de l'Ordine Nuovo, eh bien, il n'est pas du tout pro-jacobin. Et pour une raison assez, assez nette, hein, hein, c'est que les Jacobins sont des gens qui ont, et là je cite un article d'un des journaux où il écrivait, qui était Il Grillo del Popolo, et donc en 1918, hein, il écrit le jacobinisme, l'article s'appelle La politica del sé, hein, la politique du si. Le jacobinisme est une vision messianique de l'histoire. Il parle toujours par abstraction, le bien, le mal, l'oppression, la liberté, la lumière, les ténèbres, qui existent absolument, de façon générique, et pas en forme concrète et historique. Comprenez bien, ça l'énerve. Mais qui parle de façon abstraite et générique, il y a la nature humaine, il y a des principes, machin, mais non, c'est historicisé, faut historiciser, faut etc. Donc, ça le met mal à l'aise. Hein. Donc il y a là. Et il y a deux. Donc première raison, ça, c'est les abstraits. Hein. C'est les abstraits. Deuxième raison, la pratique politique du jacobinisme, hein, c'est la terreur et la tyrannie. Je le cite à nouveau. Et il relie, hein, cette pratique de la terreur et de la tyrannie à cet esprit abstrait messianique. Hein. Je recite toujours le même article du 29 juin 1918. Et le jacobinisme tire de son esprit messianique, de sa foi dans la vérité révélée, la prétention politique de supprimer violemment toute opposition, toute volonté qui refuse d'adhérer au contrat social, et l'on tombe dans les contradictions si communes dans les régimes démocratiques entre les professions de foi qui exaltent la liberté la plus illimitée et une pratique de tyrannie et de brutale intolérance. Donc il y a une rupture dans la réflexion de Gramsci. La rupture dans la réflexion de Gramsci, elle date en gros de 21-22, hein, de 21-22, et elle est liée à deux aspects qu'on peut identifier assez clairement. Un qui est identifié depuis longtemps par les gens qui ont déjà travaillé là-dessus, et l'autre que j'ai identifié moi, je suis super content, mais bon... Peut-être qu'il y en a, parce que là, quand on dit « Ah, j'ai trouvé un truc », puis après, on se rend compte qu'il y a 20 ans, il y a un mec qui l'a écrit, mais bon, voilà, on ne connaissait pas, donc on croit qu'on l'a trouvé tout seul. Bon, mais enfin, en tout cas, le truc que tout le monde sait et dit très clairement, c'est qu'il lit une brochure de d'Albert Mathiès, qui est un des grands historiens français du début du XXe siècle, grand historien spécialiste de la Révolution française, qui fait un petit livre, qui publie dans la librairie du Parti Socialiste et de l'Humanité en 1920, donc avant la scission entre socialistes et communistes, et qui s'appelle « Le bolchevisme et le jacobinisme ». Voilà. Et alors, non seulement il le lit, mais il le fait traduire dans la deuxième série, la série quotidienne de l'Ordre du Maine-Loire. Donc, voilà. Voilà. Il y a une deuxième raison, voilà, c'est en fait, là, donc c'est pas seulement qu'il a lu Mathiès, mais c'est aussi qu'il a lu les bolcheviks, qui, et non seulement qu'il les a lus, mais il les a publiés dans l'Ordinaire Novembre, les textes de bolcheviks, et en particulier un texte de Zinoviev, où Zinoviev dit. Parce que, évidemment, s'il avait à sa disposition les œuvres complètes de Lénine, il va à la bibliothèque Denis Diderot, il demande le volume, s'il vous plaît, le volume 7 des œuvres complètes, on lui donne le volume 7, et il dit, ah bah oui, il l'a déjà écrit, mais sauf qu'évidemment, à ce moment-là, il ne peut pas les avoir. Mais il a ce texte de Zinoviev sur Lénine, à un moment où, voilà, on se demande si ce pauvre Lénine ne va pas... Il va pas mourir parce qu'il y a une socialiste révolutionnaire qui lui a tiré dessus à coups de pistolet. Enfin bon, c'est une autre question. Et Zinoviev écrit très clairement, le Jacobin qui lit son destin au destin de la classe sociale la plus avancée de son époque, c'est-à-dire au destin du prolétariat, voici le révolutionnaire socialiste. Et ça, Zinoviev le met entre guillemets, et il déclare qu'il s'agit là d'une citation de Lénine. Ainsi répondait Lénine au Menchevique qui l'accusait de jacobinisme. La figure du prolétarien jacobin, il a inventé un concept, donc jacobin prolétarien, prolétarien jacobin, Lénine, et obscurcira même le souvenir des plus fameux jacobins de la Grande Révolution française. Donc, nous sommes de nouveaux jacobins. Bon, et il ne peut pas ne pas le savoir, puisqu'il le publie lui-même dans le numéro du 10 juillet 1920 de l'Ordinaire Noir. Donc, voilà. Donc, c'est, du coup, le tournant de Gramsci vis-à-vis du jacobinisme est à concevoir à la fois comme des informations historiques qu'il va pouvoir trouver dans la production de ce grand historien qui est Mathiès. C'est une toute petite brochure, le bolchevisme et le bolchevisme et le jacobinisme. Mais après, il va se servir du manuel, qui est aussi pas un très gros livre, c'est trois petits volumes chez Armand Collin, qu'on trouve encore, on peut encore les trouver, et le manuel de Mathiès sur la Révolution française, qui vont lui servir dans ses travaux de prison, qu'il va recevoir, et même il reçoit à des moments différents les différents volumes, donc on peut même savoir à quel moment il intègre tel aspect qui est seulement dans le troisième volume, etc. Je vous passe le détail, mais en gros, c'est ce livre de Mathiès-là qui, pendant la période de la prison, va lui servir de point de référence historique pour comprendre et analyser la Révolution française, et en particulier lire la Révolution française en parallèle et en une certaine façon en opposition, en tout cas s'éclairant l'une l'autre par les manques de l'une, les manques de l'un, le risorgimento italien, et les réussites de l'autre, mais aussi ses limites, qui sont les textes sur la Révolution française, etc. Bon, la seule chose, mais là je vous le dis simplement, hein, c'est que sur la question des villes et des campagnes, il pouvait trouver des choses en Mathiès, sur la question du fait que les Jacobins avaient, voyaient dans l'union des villes et des campagnes un point décisif, un point important. Il pouvait trouver. Mais quand on lit la brochure de Mathiès, et même quand on lit ce que Mathiès écrit à ce propos dans ses volumes du manuel sur la Révolution française, on voit bien qu'il faut vraiment tirer, quoi. Il faut vraiment tirer. Parce que, hein, voilà ce qu'il écrit, Mathiès, là. Hein, une citation qui est très représentative, hein, évidemment. Faudrait je vous... pour vraiment démontrer, il faudrait tout donner. Mais là, je donne une citation qui est très emblématique de la façon dont Mathiès présente cette question de la masse des paysans et leur rôle vis-à-vis des Jacobins. Alors, je cite dans la brochure Le bolchevisme et le jacobinisme, c'est pages 5 et 6. Voilà ce qu'il écrit. Les paysans qui, dans la France de 1793, comme dans la Russie actuelle, forment la masse, sont entraînés par les avantages matériels que les bolchevistes, maintenant en Union soviétique, enfin en Russie, comme les montagnards, à l'époque, en 1793, ont su leur garantir. Les montagnards extirpent les dernières racines de la féodalité en abolissant, après leur victoire sur la Gironde, en abolissant donc les redevances seigneuriales fondées sur le titre primitif qui subsistait encore. Donc, suppression des redevances seigneuriales. Deuxième point, ils mettent la main sur les biens des émigrés, donc des nobles qui sont partis à l'étranger, hein, pour de là essayer de remener la lutte pour la reconquête de la France. Donc, ils mettent la main sur les biens des immigrés, riches proies, qui sera leur trésor de guerre. Le paysan qui achète la terre noble ou la terre ecclésiastique devient solidaire de leur cause, c'est-à-dire de la cause des montagnards. Il est attaché au jacobinisme par le lien si fort de l'intérêt personnel. La défaite de la Révolution serait pour lui la spoliation et la ruine. Hein? Alors, cette brève citation, mais donne le sens général de ce que Mathiès écrit, y compris ultérieurement dans son ouvrage de synthèse sur la Révolution française. Alors, vous voyez bien qu'on peut y appliquer la question de la résolution de la contradiction entre les villes et les campagnes, mais qu'on peut l'appliquer. Alors, ça ne découle pas directement. En plus, c'est vraiment dit dans les termes de l'intérêt économique, pas dans le thème du bloc fusionnel d'une volonté collective nationale populaire, hein. Donc faut quand même tirer, quoi. Faut quand même appliquer ça, c'est-à-dire pour écrire ce qu'il va écrire en février 32 dans le cahier 8, note 35, hein, où quand il parle du jacobinisme historique, à propos d'un personnage important, du lien entre la France et l'Italie de la période, qui s'appelle Giuseppe Ferrari, hein, donc il dit il faut analyser la façon dont le jacobinisme historique s'est dilué et est devenu abstrait chez Giuseppe Ferrari. Et après jacobinisme historique, il ouvre une parenthèse. Il ouvre une parenthèse. Et la parenthèse dit, voilà, jacobinismo storico, parentesi, unione della città e della campagna. Ça se ramène à ça, pour lui, à ce moment-là. Vous voyez bien que jacobinisme historique égale union de la ville et de la campagne, faut le tirer de l'hégémonie du prolétariat de Lénine, faut le tirer de lui-même ce qu'il dit dans les notes sur la question des méridionales, faut le tirer de voilà, cette question centrale pour la révolution au niveau mondial, parce qu'un peu partout ça se pose, hein, et qu'on le tire plus difficilement de la Révolution française, en tout cas des indications historiographiques qu'il a, lui, sur la Révolution française. Hein. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il s'agit avant tout d'une réponse qui était déjà impliquée par la façon de poser la question, qui était une façon politique, hein, de politique centrale pour le communisme de toute cette période. Hein, et on ne s'étonnera pas qu'une fois de plus, la politique l'emporte sur les données historiographiques. There is a... La citation « Come Giacobinismo storico, Unione della città della campagna », cahier 8, note 35. Cahier 8, note 35. Mais c'est vraiment une incise, hein. Il parle du Risorgimento. Hein. La note s'appelle « Risorgimento, point, Giuseppe Ferrari, point ». Et il entend démontrer que le jacobinisme historique s'est dilué et il est devenu abstrait chez Giuseppe Ferrari. Mais sur quel aspect ? Cette parenthèse. Hein ? Unione de la città de la campagne. Bon, allez, c'est presque fini. Hein, voilà. Donc, alors, vous vous souvenez donc que dans le cahier 13.1, il écrivait que il principe de Machiavelli potrebbe essere studiato come un'esemplificazione storica del mito sorelliano, cioè dell'ideologia politica che si presenta non come fredda utopia né come dottrinario raziocinio, ma come fantasia concreta operante su un popolo disperso e polverizzato per suscitarne e organizzarne la volontà collective. Hein, c'est ça. C'est quoi la force du prince ? C'est d'être une exemplification historique du mythe sorélien, hein, c'est-à-dire une idéologie politique qui se présente non comme une froide utopie, pas comme un raisonnement doctrinaire, mais comme une imagination concrète, hein, capable d'agir sur un peuple dispersé et pulvérisé pour susciter et organiser sa volonté collective. Alors, pourquoi je redis ça ? Non pas pour refaire l'explication qui vient d'être faite dans l'heure précédente par Romain, mais pour dire qu'on peut, sans aucun doute, à mon avis, sans aucun doute, dire que ces jacobins, incarnation catégorique du prince, hein, dont on a vu le sens tout à l'heure dans le cadre de la Révolution française, relèvent d'un semblable processus. Hein, et c'est cette vision miroir du prince et des jacobins qui est en jeu. On peut dire que le jacobinisme historique, le jacobinisme historique, est au même titre que le prince de Machiavel, un mythe hein, que Gramsci fonde. Hein, un double mythe, Machiavel annonçant les jacobins, et ceci incarnant, à la fin du XVIIIe siècle, le prince. Et incarnant à la fin du XVIIIe siècle le prince, il démontrait que le mythe machiavélien avait pu se réaliser, et même devait se réaliser, et que cette incarnation ne devait pas, ne pouvait pas être remise en question. Hein ? Incarnation catégorique. C'est dans l'aller et retour entre l'Italie du XVIe siècle et la France du XVIIIe siècle, un mouvement dialectique, mais aussi, parce que c'est aussi souvent le sens que prend ce terme, traduction réciproque d'un pays vers l'autre. Hein. Et c'est vraiment comprendre le mode de pensée de Gramsci, c'est intégrer en permanence, et c'est important à comprendre quand on lit les textes, c'est intégrer en permanence l'idée que pour lui, il y a en permanence ces allers-retours, cette vision dialectique du monde, ou pour le dire dans ses termes à lui de sa réflexion la plus mature, traductibilité réciproque d'une langue à l'autre et d'une réalité nationale à une autre. Donc, euh, Donc là, il établit un lien entre la pensée machiavélienne qui pressentait la nécessité d'une alliance de la ville et de la campagne, et il établit ce lien entre cette pensée et l'expérience historique des Jacobins. Hein, l'expérience historique des Jacobins. Et c'est dans ce lien-là, dans cet aller-retour, la réalisation historique démontrant en quelque sorte a posteriori la finesse et la justesse de l'intuition politique de Machiavel, que Gramsci répond et définit ce que doit signifier, répond à la question de l'hégémonie du prolétariat et définit ce que doit signifier l'hégémonie du prolétariat. Alors, ça n'est pas uniquement une question franco-italienne, on l'a déjà vu, hein, mais c'est une question franco-italienne qui lui permet de comprendre pourquoi le processus, en Italie, le processus de Risorgimento est dirigé par les modérés et non par l'aile gauche, hein, le parti d'action, Mazzini, Garibaldi. Pourquoi ? Parce que en Italie, personne, ni les modérés, mais les modérés, c'est normal, ils ne veulent pas la réforme agraire. C'est conforme à leur être de classe, c'est conforme à leur politique. Donc, c'est pas Cavour, il va dire non, il faut faire la réforme agraire. Mais le parti d'action ne s'est jamais posé la question de la réforme agraire. Et donc, il n'est pas parvenu à mobiliser la masse des paysans italiens et. Les Italiens qui sont ici, qui sans doute l'ont étudié au moment où ils ont fait le Risorgimento, où ils ont étudié Verga, savent que même quand il y a eu, au moment de l'expédition des 1000 en Sicile, hein, pour la libération du sud de la Sicile et du sud de l'Italie, quand il y a eu des révoltes spontanées des paysans réclamant la terre, hein, eh bien, un des lieutenants de Garibaldi, hein, Nino Bixio, hein, et aller massacrer les paysans. Et il y a l'image de ça dans une nouvelle d'un des grands auteurs de la littérature italienne, qui est Verga. Hein, la nouvelle s'appelle Libertà, et se termine par les fusillades. Fusille les paysans, et l'un d'entre eux, au moment de mourir, dit « Ma non avevano detto che c'era la libertà ». Il l'avait dit, mais c'était pas pour eux, quoi. C'était pas pour eux. Hein. Voilà. Donc, voilà, donc c'est une question franco-italienne parce qu'elle permet de comprendre ça sur le Risorgimento en comparant les Jacobins et le Parti d'Action. Mais c'est aussi une question russe, c'est aussi une question qui concerne l'ensemble du mouvement communiste international. Comme je vous l'ai dit, simplement en y faisant allusion, mais sans rentrer dans les détails, mais dans le texte que je vous donnerai, vous aurez plus de choses, hein. Une question qui concerne l'ensemble du mouvement communiste international, mouvement central, hein, une question centrale du mouvement communiste international qui a été résolue par le camarade Staline de la façon qu'on sait, en réglant la question radicalement, à la racine, hein, au sens malheureusement strict du terme. Alors, rappelons. Là aussi, j'y ai fait rapidement allusion. Rappelons, parce que ça a une importance sur le jugement sur la position politique de Gramsci. Rappelons que ses conclusions, à savoir que, vous rappelez les termes, hein, confiance, consensus, persuasion, alliance, c'est ça que signifie l'hégémonie du prolétariat pour le Lénine de la NEP et pour le Gramsci qui écrit encore en 26 et ça reste présent dans l'ensemble des textes. Hein. Hégémonie du prolétariat signifie alliance, aide et persuasion vis-à-vis des paysans. Ça ne signifie pas, hein, ça ne signifie pas coercition, ça ne signifie pas force, ça ne signifie pas violence. Donc, en disant cela, Gramsci définit une position qui s'oppose radicalement à ce qui se fait en Russie, au moment où il écrit, c'est-à-dire à la coercition, précisément, vis-à-vis des paysans, et à partir de 1928, à la collectivisation forcée et à la suppression, et pas seulement en tant que classe, hein, des coulacs. Affirmer la nécessité de l'union entre ville et campagne, au moment où cela signifie être en total désaccord avec le processus qui se déroule en URSS, signifie au moins souhaiter une autre voie possible pour le communisme. Le double mythe forgé par Gramsci autour des Jacobins et de Machiavel lui sert à permettre à penser l'émergence d'une volonté nationale populaire, hein, en dépassant l'idée de la nation qui était celle de la nation rhétorique, de la nation littéraire, etc., pour l'amener à une caractéristique de volonté nationale populaire. Et cette volonté nationale et populaire, cette volonté collective nationale et populaire, ne peut exister qu'avec le concours commun du prolétariat, des paysans et des intellectuels, et du prolétariat qui aura renoncé à son égoïsme de classe, et des intellectuels qui ont cessé d'avoir l'esprit de classe, et de nouveaux intellectuels qui naîtront des classes subalternes, et des paysans qui accepteront qu'on fasse évoluer leur sens commun. Voilà. Hein, voilà. Ce mythe, hein, et ce mythe doit donc faire partie du moderno principe, et Gramsci l'explicite très clairement, hein, très clairement. Il principe moderno deve avere una parte dedicata al giacobinismo. Le prince moderne, en tant que texte, en tant que corps de réflexion, en tant que modalité de pensée, doit avoir une partie consacrée au jacobinisme. Voilà. S'il est assimilé par les masses, il pourra se transformer en force matérielle en aidant donc à la formation d'une volonté nationale populaire, une volonté collective nationale populaire, et à la formation d'une réforme intellectuelle et morale. C'est deux points fondamentaux qui donnent, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est tellement fondamental que ça vaut le coup de répéter, et comme nous le savons, la nécessité de répéter inlassablement, hein, est le fondement même du travail qui doit être effectué par la philosophie de la praxis. Donc nous l'appliquons avec rigueur. Donc ce point permettra, hein, c'est l'émergence de ces deux points fondamentaux qui donnent sa structure et son programme d'action au moderno principe.